Chapitre 24. Monsieur Edoux de Pélédoux. Je m'éveillais au milieu d'une scène tellement bizarre que je doutais du témoignage de mes yeux. J'étais entre Hermine et Catiche qui me tapaient toutes les deux dans les mains. Joson Menou m'inondait d'eau, qu'il avait été puisée au Vesvron dans une de ses grandes bottes. Elle était encore à demi pleine et j'étais aux trois quarts noyée. Tout autour de moi, il y avait des gars et des filles, endimanchés du haut en bas, qui bavardaient le patois de Vitré avec un zèle extraordinaire. De bons gars et de bonnes filles, car ils appelaient le gros tuteur notre maître. On hachait le peuplier, et je me souviens que chaque coup me répondait dans la tête. Les travailleurs abondaient, la brèche se faisait rapidement. Monsieur Edoux de Pélédoux se tenait à la portière de la chaise et parlait à ses tenanciers en brandissant son fameux tromblon. Son énorme visage était éclairé par deux ou trois chandelles de résine.
« J'ai tué l'écuyer de ma nièce et pupille, » disait-il. « C'est malheureux, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je prendrai soin de sa veuve, je la rendrai riche, ou tout au moins je lui servirai une bonne petite pension viagère. D'ailleurs, il fallait frapper un grand coup. Mademoiselle de Bois-le-Roi était en péril. L'espingole a fait mordre la poussière à plus de 20 brigands, ou tout au moins...
« Ventre bleu !» gronda Joson. « Il n'en est tombé que 12 en tout, et j'en ai cabossé 6. Monsieur le chevalier a fait le reste.
« Tu seras récompensé, toi, l'homme qui éternue !» lui cria Monsieur de Pélédoux. « Demande-moi tout ce que tu voudras, ou tout au moins un écu de 6 livres.
Et nous, et nous ?» crièrent les vrais sauveurs, les paysans et paysannes dont le retour avait mis en fuite les malfaiteurs.
« Vous aussi, mes enfants, vous aurez de l'argent blanc, veux-tu, en voilà, ou tout au moins chacun une jolie piécette de 12 sous, et les femmes 6 sous, à prendre sur les fermages du jour de la Saint-Jean. »
On protesta, mais seulement sur la question du terme. Le chiffre en lui-même fut trouvé raisonnable, à condition qu'il fût payé comptant.
« Vous êtes bien heureuse d'avoir tant de courage, » disait Hermine à Catiche. « Si j'avais osé faire comme vous et me servir des pistolets, peut-être que les brigands auraient fui dès le commencement. »«
Cher enfant, chacune de nous est dans son rôle, » répondit Catiche sans s'expliquer davantage.
« Sans vous, » continua Mademoiselle de Bois-le-Roi, « Monsieur le Chevalier était un homme mort. »«
Le Chevalier et moi, nous sommes de vieux amis, » murmura Catiche en souriant. Puis elle baissa la voix pour demander.
« S'il vous aimait, l'aimeriez-vous ? Le voilà qui s'éveille, » dit Hermine précipitamment.
Cela lui évita de répondre, mais un rouge vif avait remplacé la pâleur délicate de ses joues. Je pressai les deux mains qui tenaient les miennes. Celle d'Hermine se retira.
« Vous voilà encore qui n'osez pas, » dit mon Amazone d'un ton de reproche.
Elle devait se connaître autrement que par cette rencontre. Moi, je ne sais pourquoi ma pensée, qui était encore bien chancelante, s'élança vers le vieux pays, là-bas de l'autre côté de Rennes, de Vannes aussi, et aussi de Lorient. Je revis les grands bois de Kéramour et cette large étoile formée par les 5 routes dont 3 descendaient à la mer. Derrière ces 2 sourires qui éclairaient et saluaient mon retour à la vie, il y avait un autre visage qui me souriait aussi, mais bien tristement. C'était Vivette, ma pauvre petite cousine, dont les yeux rieurs étaient mouillés et qui semblait me dire
« Gaston, est-ce que tu vas déjà m'oublier ?»
De compte fait, il y avait 6 morts, y compris le pauvre vieil écuyer, qui avait été mitraillé par derrière et presque à bout portant. Parmi les cadavres se trouvait celui du grand diable qui m'avait tenu sous son épée. La balle du petit fusil de Catiche lui avait fracassé la nuque. Il fut reconnu pour un ancien valet du vicomte de Saint-Pierre, qui s'était établi marchand de bois aux environs. L'apôtre Saint-Pierre lui-même, et généralement tous les blessés, avaient été enlevés. Quand l'arbre fut coupé et que la brèche fut faite praticable, il pouvait être 10 heures de nuit. La lune éclairait. Monsieur Edoux de Pélédoux, du haut de sa portière, remercia noblement les travailleurs et distribua même quelques pièces de menu monnaie. Les 2 valets, le postillon et les 2 paysans, étaient fidèlement revenus après la bataille gagnée.
« Mes enfants, » dit Monsieur Edoux, « je vous remercie, quoique, en définitive, vous n'ayez fait que votre devoir. Vous vous êtes comportés bravement,
ou tout au moins aussi bien qu'on peut l'attendre de pauvres gens de votre espèce. Tout le monde n'est pas bourgeois de Vitré, Dieu merci. »
Joson, qui m'aidait à me lever sur l'ordre de Mademoiselle de Bois-le-Roi, me dit à l'oreille: « Je n'aime point ce gros Pourciot-là, sauf respect, monsieur le chevalier. Il vaudrait cher au prix où était le lard à la foire passée d'Ennebon. Misère, s'il n'y avait eu que lui, c'est moi qui l'aurais laissé saigner. J'étais faible à ne pouvoir me tenir sur mes jambes. »
Monsieur Edoux continuait: « Monsieur Lesquer, qui, en son vivant, avait l'honneur d'être l'écuyer de ma nièce, aurait dû se ranger quand j'ai tiré. Le bon sens l'indique. Son malheureux sort vous prouve la bonté de mon espingole. Elle m'a coûté, du reste, un prix assez considérable. Monsieur Lesquer aura des funérailles somptueuses, ou tout au moins convenables pour un homme de sa sorte. Je ne veux rien devoir à personne. Tel est mon caractère. »
« Oh, que oui, bien, fit Joson Menou, que je l'aurais laissé carabouillaminer pour sûr. »
De ce pas, poursuivait toujours le tuteur de ma fortune, je me rends à Paris pour marier ma nièce et pupille, ou tout au moins pour essayer, car je veux qu'elle ait un tabouret à la cour. Nous descendrons chez monsieur mon cousin par alliance, Thérèse du Coudray, propre frère de l'abbé Thérèse, contrôleur général des finances, et j'obtiendrai de lui une diminution de vos tailles. »
Ceci eut quelque succès. Plusieurs voix crièrent: « V'là qu'est mignon, notre maître, et c'est de la bonté de la part de vous. »
« Sans compter, continua mon tuteur, que je ferai le nécessaire pour que mon autre cousin, ce scélérat de Saint-Pierre, soit pendu ou tout au moins décapité, puisque nous autres bourgeois de Vitré nous jouissons des privilèges de noblesse. »
« Mon oncle, dit en ce moment Hermine, voilà monsieur le chevalier de Kéramour qui a recouvré ses sens. »«
Kéramour ? Répéta monsieur Hélou. « Un nom de bas-breton, la gale !»«
Ventre bleu, mon gros, interrompit Joson, ne faut point mal parler de la basse Bretagne, si c'est que vous ne voulez pas avoir affaire avec moi. »
« à tes souhaits, l'enrhumé, fit gaiement monsieur Hélou. « Toi, tu tapes encore mieux que tu n'éternues. Veux-tu faire marcher pour nous escorter jusqu'à Laval ?»«
Ouvrez la portière, mon oncle, dit Hermine. Monsieur de Kéramour attend. »
Et en vérité, ce n'était pas une prière, ni même une invitation. C'était un ordre. Pour la seconde fois, le bonhomme répéta mon nom d'un air grondeur. Mais il ouvrit la portière. Je pus monter parce que Joson m'appuyait le dos avec ses deux mains tendues. L'intérieur de la berline était spacieux et, quoique monsieur Edoux du Pélédou en occupât les trois quarts, à cause de la qualité fondante de son gras, je trouvais facilement où me caser. Hermine monta derrière moi. Avant de s'asseoir, elle dit:
« Je désire que chacune des métairies de ma terre de Bois-le-Roi fournisse un bon gars à cheval pour m'escorter jusqu'au pont de la rivière de Mayenne. »
20 voix s'élevèrent aussitôt.
« Moi, moi, moi » criait-on de toutes parts. « Il n'y a plus d'enfants !»
grommela monsieur Edoux de Pélédoux.
« Ça commande comme père et mère !»
Il ajouta majestueusement:
« Je ratifie l'ordre donné par mademoiselle ma nièce et chère pupille !»
Il se fit un grand mouvement parmi ceux qui se disputaient l'honneur de composer l'escorte. 8 ou 10 bons gars s'éloignèrent en courant dans toutes les directions pour chercher des chevaux. Les autres revenant du Mimet, hommes et femmes, déclarèrent qu'ils resteraient là jusqu'à ce que la garde fût formée. La lune éclairait maintenant le sombre paysage que j'ai esquissé naguère et mettait des étincelles dans le ravin où courait l'eau du Vesbron. Je cherchais des yeux Catiche.
« Madame la vicomtesse n'a pas voulu monter avec nous, » me dit Hermine, comme si elle eût deviné ma pensée.
« Comment, comment ? »
s'écria monsieur Edoux de Pélédoux.
« Vous vouliez donc m'étouffer, mademoiselle de Bois-le-Roi ? »
On voyait bien qu'il allait sortir de son caractère.
« Sans la vicomtesse, » répliqua doucement Hermine, « nous n'aurions pas eu la protection de monsieur le chevalier de Kéramour. »
« Je ne dis pas, » fit le bonhomme, « que monsieur de Kéramour, puisque Kéramour il y a, ne nous ait pas été de quelque utilité. Je lui donnerai la récompense qu'il souhaitera, ou tout au moins mes sincères remerciements. Il a un fier luron pour domestique, Mais cette vicomtesse-là...
Mon oncle, interrompit Hermine, cette vicomtesse-là s'appelle Catherine Costa. Elle est comédienne et son talent l'avait faite riche. Votre cousin Edou de Saint-Pierre l'a volée et trompée. Elle avait accepté le titre de vicomtesse parce que monsieur le vicomte lui avait signé une promesse de mariage.
Oh ! Soupira le bonhomme. Quel coquin ! Mon estomac me tire et je mangerai bien un morceau. Une comédienne, la grêle !
Ventre bleu, moi aussi !
Cria de loin Joson.
J'en mangerai bien de morceaux avec une bouteille sur le pouce.
Catherine Costa, poursuivit Hermine, m'a dit elle-même que la diversité de nos positions dans le monde nous défendrait de nous voir à Paris. Mais à un cœur comme le sien, il n'y a qu'une manière de témoigner sa reconnaissance. Je compte la chercher.
Pas de folie, dit le gros tuteur avec impétuosité. Vous êtes mineur, vous ne disposez de rien. Pendant que je me soulève, tâche de prendre le pâté dans le coffre, ma belle, et ne secoue pas le vin. Ces comédiennes prennent de toutes mains.
Vous ne m'avez pas laissé achever, mon oncle. Je dispose du moins de mon amitié. C'est tout ce qu'elle voudra accepter de moi, et je la lui donne. Par un mouvement dont je ne fus pas le maître, je cherchais sa main. Elle ne la retira pas, au contraire. Elle me dit, sans fausse honte ni mystère, « Pour vous aussi, monsieur le chevalier, j'ai beaucoup de reconnaissance. Je vous parlerai en particulier quand vous serez en état de m'entendre. »
« Oh, ça ! Oh, ça !»
protesta le bonhomme.
« En particulier, comme vous y allez, prenons le pâté pendant que je suis soulevée. »
Mademoiselle de Bois-le-Roi se prêta à son désir. Elle retira du coffre un panier de provisions et tout aussitôt après, monsieur Edou de Pélédoux retomba d'un tel poids que le carrosse roula comme un navire que la lame ballotte.
« J'ai bien gagné un peu de nourriture, » dit-il. « Quant à la comédienne, vous ferez, mamie, ce que votre tuteur vous commandera. Et monsieur le chevalier prendrait une triste idée des demoiselles de Vitré. Voyons, jeune homme, un verre de claret pour vous réchauffer le cœur. »«
Ça n'est point de refus, »
répondit Joson qui mit la tête à la portière.
« Et le restant de la bouteille pour moi, avec du pain et de la viande, si c'est un effet de votre politesse. »
La suite dans la bague de chanvre.